Conseil de William Penn à ses enfants. Préface de l'éditeur du site Penn a écrit ce merveilleux traité alors qu'il se préparait à son premier voyage d'Angleterre vers le territoire qui venait de lui être concédé en Amérique, qu'il nomma Pennsylvanie, ne sachant pas s'il reviendrait un jour revoir ses enfants. Comme pour le reste des écrits de Penn, la langue et la ponctuation ont été mises à jour afin de mieux communiquer les pensées et la sagesse extraordinaire de Penn. C'était un homme très instruit, grand lecteur, et à l'aise avec un vaste vocabulaire. Les mots rarement employés tendent à tomber dans l'oubli au fil du temps. Il est donc nécessaire d'actualiser sa langue à l'aide du dictionnaire Webster de 1828, en s'efforçant toujours de transmettre son sens originel, mais plus clairement. Selon l'éditeur de ce site, il pourrait s'agir du plus grand écrit de Penn, ce qui n'a rien d'étonnant puisqu'il conseille ses enfants dans la voie qui les affectera pour toute l'éternité. Parmi tous les écrits Quakers examinés, celui-ci se distingue comme le guide le plus pratique pour conduire sa vie, en équilibrant devoirs religieux et croissance spirituelle avec la conduite dans les activités matérielles du quotidien. La sagesse de ses conseils pour gérer ses affaires n'a pas d'équivalent par son ampleur, tout en demeurant brève, c'est donc un véritable trésor pour les âges. Chapitre I. Mes chers enfants, ne sachant pas combien de temps il plaira à Dieu de me laisser encore parmi vous, je veux saisir cette occasion de vous laisser mes conseils et avis concernant votre condition et votre devoir chrétien et civil en ce monde. Et je vous supplie et vous enjoins en vertu de votre lien avec moi et de l'affection que je vous ai toujours témoignée et que j'ai en vérité reçue de vous, de les garder dans vos cœurs autant que dans vos esprits, avec un soin sage et religieux. Je commencerai par ce qui est le commencement de toute vraie sagesse et de tout vrai bonheur, la sainte crainte de Dieu. Enfants, craignez Dieu, c'est-à-dire, ayez dans vos esprits une sainte révérence qui vous fasse éviter le mal et un soin rigoureux d'embrasser et de faire le bien. La mesure et la règle de cette connaissance et de ce devoir, c'est la lumière du Christ dans vos consciences. Par elle, comme dans Jean 3, 20-21, vous pouvez voir clairement si vos actes, oui, et aussi vos paroles et vos pensées sont accomplis en Dieu ou non, ou bien si ce sont les œuvres de l'Esprit pour lesquelles vous devez être jugés. Je dis que, par cette divine lumière du Christ dans vos consciences, vous pouvez soumettre vos pensées, vos paroles et vos œuvres à votre propre jugement, et avoir un sens juste, vrai, solide et infaillible de votre devoir envers Dieu et envers les hommes. Mesure que vous en viendrez à obéir à cette lumière bénie dans ses saintes convictions, elle vous conduira hors des voies et des œuvres sombres et dégénérées du monde, et vous amènera à la voie et à la vie du Christ, afin d'être du nombre de ses vrais disciples qui se renient eux-mêmes pour porter votre croix à cause de lui, qui a porté la sienne à cause de vous, et pour devenir des enfants de la lumière en la revêtant comme votre sainte armure. Par elle vous pourrez voir et repousser les traits enflammés des tentations de Satan et le vaincre dans tout. Permettez-moi de vous expliquer brièvement ce principe. On l'appelle lumière, Jean 1-9, Jean 3-19-21, Jean 8-12 et 5-8-13-14, 1-16-5-5, 1 Jean 1-5-7, Apoc 21-23 parce qu'elle donne à l'homme la vue de son péché. Et on l'appelle aussi l'esprit vivifiant, car c'est ainsi qu'il est nommé. Et le Seigneur venu du ciel, comme en 1 Cor 15-45-57, lui qui est appelé, et s'appelle lui-même, la lumière du monde, Jean 8, 12. Et pourquoi l'appelle-t-on l'Esprit? Parce qu'il donne à l'homme la vie spirituelle. Dans Jean 16, 8, Christ a promis d'envoyer son Esprit pour convaincre tout le monde, chaque homme, de ses péchés. Ainsi, ce qui vous convainc, vous et tous les hommes, de vos péchés, c'est l'Esprit du Christ. Il est hautement estimé, Rome 8, comme vous pouvez le lire dans ce grand et doux chapitre, car les enfants de Dieu sont conduits par lui. Il révèle les choses de Dieu qui concernent le salut et le bonheur de l'homme, comme en 1 Cor 2, 10-12. C'est la promesse que Dieu fait à son peuple, 2 Cor 5-5. Le grand but, le bénéfice et la bénédiction de la venue du Christ, c'est ceci, l'irradiation de cette lumière et l'effusion de cet esprit. Oui, le Christ n'est pas reçu par ceux qui résistent à sa lumière et à son esprit dans leur cœur, et ceux qui se rebellent contre la lumière ne peuvent non plus bénéficier de sa naissance, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, de son intercession, etc. Dieu a envoyé son Fils pour nous bénir, en nous détournant du mal de nos voies. Ayez donc soin d'éviter le mal, car il vous détourne de Dieu. Quelque mal que vous ayez fait, ne le faites plus, mais détournez-vous, mes chers enfants, de ce mal, en pensée comme en parole ou en acte, autrement il vous détournera de Dieu, votre Créateur, et du Christ qu'il vous a donné pour votre Rédempteur. Il rachète et sauve son peuple de ses péchés, Tite 2, 14, non dans ses péchés. Lisez Actes 2 et Hébreux 8, et la dispensation chrétienne apparaîtra comme celle de l'Esprit, que le péché éteint, contre lequel il endurcit le cœur, et sur lequel il verrouille la porte. Ce saint principe divin est aussi appelé grâce, Tite 2, 11, 14, vous y verrez sa nature et sa fonction, et ses effets bénis sur ceux qui en étaient instruits au premier temps. Et pourquoi la grâce? Parce qu'elle est l'amour de Dieu, et non ce que nous méritons, mais sa bienveillance, sa bonté. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. C'est ce Saint-Fils qui, en Jean 1, 14, 16, est déclaré plein de grâce et de vérité, et dont nous recevons grâce sur grâce, c'est-à-dire que nous recevons de lui en plénitude la mesure de grâce dont nous avons besoin. Le Seigneur dit à Paul dans ses grandes épreuves, lorsqu'il était prêt à chanceler quant à la suffisance de la grâce reçue pour le délivrer, « Ma grâce te suffit » 2 Corinthiens 12, 9. Ô enfant, aimez la grâce, obéissez à cette grâce. Elle vous enseignera, elle vous sanctifiera, elle vous conduira au repos et au royaume de Dieu, comme elle a enseigné les saints d'autrefois. D'abord ce qu'il faut renier, c'est-à-dire, renier l'impiété et les convoitises mondaines, puis ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, vivre dans le siècle présent avec sagesse, justice et piété, Tite 2, 11-12. Celui qui est plein de grâce est plein de lumière, et celui qui est plein de lumière est plein de l'esprit vivifiant, qui donne à chacun la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune, 1 Cor 12-7. Celui qui est l'esprit vivifiant est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit-il à ses pauvres disciples Jean 14, 6. Et si la vérité vous a franchi, dit-il aux Juifs, vous serez réellement libres, Jean 8, 31, 32, 36. Cette vérité se répand dans l'homme et crée la vérité dans le fort intérieur, ce qui fait de l'homme faux, rebelle et hypocrite, un homme à nouveau vrai devant Dieu. La vérité dans les parties intérieures a un grand prix aux yeux du Seigneur. Pourquoi appelle-t-on cela vérité? Parce qu'elle dit à l'homme la vérité sur son état spirituel. Elle lui montre son état, lui parle sans détour, et met ses péchés en ordre devant lui. Ainsi, mes chers enfants, la lumière, l'esprit, la grâce et la vérité ne sont pas plusieurs principes, mais plusieurs mots, ou descriptions, donnés à une seule puissance éternelle et à un seul principe céleste en vous. Quoique non de vous, mais de Dieu, selon sa manifestation ou son opération chez les serviteurs de Dieu des temps anciens. Lumière pour découvrir et donner le discernement esprit, pour vivifier et ranimer grâce à savoir, l'amour de Dieu vérité, parce qu'elle dit à l'homme la vérité sur son état, et le rachète de l'erreur de ses voies. Ainsi de même que les ténèbres, la mort, le péché et l'erreur sont une seule et même chose, la lumière, l'esprit, la grâce et la vérité sont une seule et même chose. C'est ce qui vient par le Christ, et une mesure de cette lumière, de cet esprit, de cette grâce et de cette vérité est donnée à tout homme et à toute femme afin qu'il voie la voie à suivre. C'est ce qui distingue les amis premiers Quakers de toutes les autres sociétés, puisqu'on les trouve marchant en cela, ce qui conduit hors des honneurs vains, des compliments, des convoitises et des plaisirs du monde. Oh mes chers enfants, c'est la perle de grand prix, donnez tout pour elle, mais ne l'échangez jamais contre tout le monde. C'est le levain de l'Évangile pour vous faire lever, c'est-à-dire vous sanctifier et vous assaisonner, corps, âme et esprit, pour l'usage et le service de Dieu, votre Père céleste, et pour votre propre consolation durable. Oui, c'est la semence divine et incorruptible du royaume, dont naissent tous les hommes et femmes véritablement régénérés, chrétiens faits par le Christ. Recevez-la dans vos cœurs, donnez-lui place, qu'elle y prenne de profondes racines, et vous porterez du fruit pour Dieu en toute bonne parole et toute bonne œuvre. En y prenant garde, ainsi qu'à ses saints éclairages et à ses mouvements, vous aurez un discernement parfait de l'esprit de ce monde, dans toutes ses apparences en vous-même et chez les autres, de ses mouvements, tentations et œuvres, orgueil, vanité, avidité, vengeance, impureté, hypocrisie et toute voie mauvaise. Vous verrez le monde sous toutes ses formes et tous ses traits, et vous pourrez le juger par cela, ainsi que l'esprit du monde dans toutes ses apparences. Vous verrez, comme je l'ai vu, qu'il y a beaucoup à renier, beaucoup à souffrir et beaucoup à faire. Et vous verrez qu'il n'y a puissance ni vertu qu'en la lumière, l'esprit, la grâce et la vérité du Christ, pour vous faire traverser le monde à la gloire de Dieu et pour votre paix éternelle. Oui, vous verrez ce qu'est la religion d'en haut et ce qui est d'en bas, ce qui est l'œuvre de Dieu et ce qui est la fabrication et la contrainte de l'homme, aussi ce qu'est le ministère qui vient de son esprit et de son don, et ce qui vient de l'étude, de l'élaboration et de l'imposition des hommes. Vous discernerez, dis-je, l'origine, la nature, les signes et les fruits du vrai et du faux ministère, et ce qu'est un culte spirituel et ce qui est charnel, et quel honneur vient de Dieu, et quel honneur vient d'en bas, des hommes, oui, des hommes déchus, que les Juifs et le monde aiment si généralement, et contre lequel il est parlé en Jean 5, 44. Vous verrez la communication vaine et mauvaise, qui corrompt les bonnes mœurs, les pièges de trop de compagnies et d'affaires, et surtout le danger de l'amitié de ce présent monde mauvais. Vous verrez aussi que le témoignage auquel Dieu éternel a amené nos pauvres amis, concernant la religion, le culte, la parole vraie, le ministère, la simplicité, la sobriété et la modération dans l'habillement, l'ameublement, la nourriture, les salutations, comme vous pouvez le lire dans leurs écrits depuis le tout début, est un témoignage vrai et céleste, sa pensée, de sa volonté, de son œuvre et de sa dispensation, en ce dernier âge du monde envers l'humanité, étant la restauration du vrai christianisme primitif. Et je vous enjoins aussi, mes chers enfants, de conserver dans votre mémoire ces dignes anciens dans l'œuvre du Christ, qui sont demeurés vivants jusqu'à votre temps et votre souvenir, et le demeurent encore à votre connaissance, plus particulièrement cet homme de Dieu, et prince en Israël, le premier-né engendré de notre temps et de notre âge de vérité, et le premier et grand instrument de Dieu parmi nous au commencement, George Fox, et tout ce que vous avez entendu, vu, observé de ces hommes célestes, leur sainte sagesse, leur zèle, leur... Et surtout, ne renoncez pas à vous assembler avec le peuple de Dieu, comme certains en avaient l'habitude, Hébreux 10, 25, et comme c'est le cas aujourd'hui, surtout parmi les jeunes, les enfants de certains amis, que l'amour de ce présent monde mauvais a blessé et refroidi dans leur amour pour Dieu et sa vérité. Mais vous demeurez attachés aux réunions, tant pour le culte que pour les affaires de l'Église, lorsque vous aurez l'âge et la capacité qui conviennent. Et cela non par nouveauté, formalité, ou pour être vu des hommes, mais dans une crainte pure, dans l'amour et dans la conscience envers Dieu, votre Créateur, comme témoignage public, juste et avoué de votre devoir et de votre hommage envers Lui. En cela, soyez exemplaires, par une arrivée à temps et par une tenue respectueuse et grave pendant l'assemblée, n'en soyez pas là, et ne trouvez pas le temps long jusqu'à ce que ce soit fini, comme certains faisaient des sabbats d'autrefois, mais que votre regard soit tourné vers celui que vous venez attendre et servir, et faites tout comme pour lui. Il sera votre rafraîchissement et votre récompense, car vous retournerez avec les sceaux et les gages de son amour, de sa miséricorde et de ses bénédictions. Par-dessus toute chose, mes chers enfants, quant à votre communion et votre fraternité avec les amis, veillez à garder l'unité de la foi par le lien de la paix. Méfiez-vous des calomniateurs, des détracteurs et des médisants qui rabaissent et sapent les frères derrière leur dos, ou de ceux qui méprisent le bon et salutaire ordre de la vérité, qui gardent les choses dans l'Église paisiblement, doucement et honorablement. Méfiez-vous des nouveautés et des gens légers et changeants, les prétentieux, les censeurs et les enflés, qui, à la fin, se sont toujours montrés comme des nuages sans pluie et des puits sans eau, et qui préfèrent troubler et briser la paix et la communion de l'Église où ils demeurent, afin que leur volonté et leur voix prévalent. Je vous enjoins, dans la crainte du Dieu vivant, de vous garder soigneusement de tous ces gens. Marquez-les, comme dit l'apôtre, Rome 16, 17, et n'ayez aucune communion avec eux, mais conseillez-les, exhortez-les, suppliez-les, et finalement reprenez-les, F5:11. Car Dieu est et sera avec son peuple dans cette sainte dispensation sous laquelle nous sommes maintenant, et qui est maintenant au milieu de nous, jusqu'à la fin des jours. Cette dispensation croîtra et augmentera en dons, en grâce, en puissance et en éclat, car c'est la dernière, et elle ne peut être contestée. Et bénis sont vos yeux s'ils la voient, et vos oreilles si elles l'entendent, et vos cœurs s'ils la comprennent, ce que je prie que vous puissiez faire pour la gloire de Dieu et votre consolation éternelle. M'étant ainsi exprimé auprès de vous, mes chers enfants, au sujet des choses de Dieu, de sa vérité et de son royaume, je vous renvoie sa lumière, sa grâce, son esprit et sa vérité en vous, et aux saintes écritures de vérité hors de vous, que j'aimais lire dès ma jeunesse et qui m'ont toujours été bénies, et je vous enjoins de les lire chaque jour. Lisez l'Ancien Testament principalement pour l'histoire, les psaumes pour la méditation et la dévotion, les prophètes pour le réconfort et l'espérance, mais surtout le Nouveau Testament pour la doctrine, la foi et le culte. Car ils ont été proclamés par de saints hommes de Dieu, en diverses époques, selon qu'ils étaient mus par le Saint-Esprit, et ils sont la pensée et la volonté déclarée et révélée du Dieu Saint à l'humanité, sous diverses dispensations. Ils sont certainement capables d'aider à rendre l'homme de Dieu parfait par la foi pour le salut, offrant un témoignage si vrai et si clair du salut qui vient de Dieu, par Christ, le second Adam, la lumière du monde, l'Esprit vivifiant plein de grâce et de vérité. Sa lumière, sa grâce, son esprit et sa vérité leur rendent témoignage dans toute âme sensible, comme eux-mêmes rendent fréquemment, clairement et solennellement témoignage à la lumière, à l'esprit, à la grâce et à la vérité, tant en lui-même qu'en et envers son peuple pour sa sanctification, sa justification, sa rédemption et sa consolation, et en tous les hommes pour leur visitation, leur répréhension et leur conviction dans leur mauvaise voie. Ainsi m'étant exprimé en général, je vous renvoie, mes chers enfants, à la lumière et à l'esprit de Jésus qui sont en vous, et aux écritures de vérité hors de vous, ainsi qu'à d'autres témoignages rendus en notre temps à cette même vérité éternelle. Et je vais maintenant descendre à des points particuliers, afin que vous puissiez appliquer plus directement ce que j'ai dit en général, tant pour votre direction religieuse que civile dans votre pèlerinage sur la terre. Chapitre I. Je commencerai ici aussi par le commencement du temps, le matin. Dès que vous vous réveillez, retirez votre esprit dans un silence pur, loin de toute pensée et idée des choses du monde. Et dans cet état, attendez-vous à Dieu pour sentir sa bonne présence, élever vos cœurs vers lui et remettre tout votre être à ses soins bénis et à sa protection. Puis levez-vous, si vous êtes bien, immédiatement. Une fois habillé, lisez un chapitre ou davantage des Écritures, puis disposez-vous pour les affaires du jour, vous souvenant toujours que Dieu est présent, surveillant toutes nos pensées, nos paroles et nos actions. Et comportez-vous, mes chers enfants, en conséquence, et n'osez pas faire, dans sa sainte présence qui voit tout, ce que vous auriez honte qu'un homme, oui, un enfant, vous voit faire. Astérisque et lorsque vous avez des intervalles dans vos occupations légitimes, prenez plaisir à rentrer chez vous en nous-mêmes, je veux dire, et à vous entretenir avec vos propres cœurs, et à demeurer en silence. Et comme Nabuchodonosor le dit en une autre occasion, un semblable au Fils de Dieu, vous le trouverez et l'apprécierez avec vous et en vous, un trésor que le monde ne connaît pas, mais qui est le but, la fin et le diadème des enfants de Dieu. Cela vous soutiendra, contre toutes les tentations, et vous fera traverser doucement et régulièrement vos affaires du jour, vous supportant dans les déceptions et modérant votre satisfaction dans le succès et la prospérité. Le soir venu, lisez de nouveau la Sainte Écriture et ayez vos temps de recueillement avant de fermer les yeux comme le matin, afin que le Seigneur soit l'alpha et l'oméga de chaque jour de votre vie. Et si Dieu vous bénit de famille, souvenez-vous de la résolution du bon Josué, Jo 24:15. Quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Astérisque, commentaire de l'éditeur du site, Benjamin Franklin reprend cet avertissement simple mais crucial, sans mentionner peine comme source. Il touche au cœur de toute notre conduite, et si c'était aujourd'hui un enseignement solide pour tous, le monde s'en porterait mieux. Il souligne aussi l'un des plus grands défis pour quiconque a été un prétendu chrétien pendant des années, tout en vivant encore dans la chair et en étant allé à pécher délibérément devant Dieu, croyant que Jésus leur donne licence de pécher. Comment pourraient-ils jamais retrouver une crainte de Dieu capable de retenir leur péché délibéré? Craignez Dieu, montrez-le par le désir, l'abstention et l'action. Maintenez la veille intérieure, gardez une âme pure et un cœur léger. Ayez le sens intérieur à l'esprit en faisant quoi que ce soit. Quand vous lisez l'Écriture, notez les passages remarquables là où vos esprits sont le plus touchés et affectés, dans un cahier de lieux communs avec ce sens ou cette lumière que vous recevez. Car cela ne vient pas de l'étude ni de la volonté de l'homme, pas plus que l'Écriture elle-même. Et cela peut se perdre par négligence et par l'envahissement des pensées et des affaires de cette vie. Faites de même en lisant tout autre livre bon ou utile, mais il vaut mieux méditer que lire beaucoup. Car l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme, et avec cet esprit, par l'observation des tempéraments et des actions des hommes que vous voyez dans le monde, et en regardant dans votre propre esprit et en méditant là-dessus, vous aurez un jugement profond et solide sur les hommes et les choses. Car à partir de ce qui peut être, de ce qui devrait être, et de ce qui est le plus probable ou le plus vraisemblable, vous ne vous tromperez guère dans votre jugement des affaires humaines, et vous avez un esprit meilleur que le vôtre, en réserve pour le temps du besoin, afin de porter le jugement final dans les affaires importantes. Dans la conversation, observez bien ce que les autres disent ou font, et cachez votre propre pensée, du moins jusqu'à la fin, puis ouvrez-la aussi sobrement que le sujet le permettra. Une observation et une réflexion juste sur les hommes et les choses donnent la sagesse. Ce sont les grands livres de l'apprentissage rarement lus. L'abeille laborieuse tire du miel de chaque fleur. Soyez toujours sur vos gardes, surtout en compagnie d'autres hommes. Ayez alors l'esprit alerte et votre armure en place. Parlez en dernière et peu, mais à propos, n'interrompez personne, n'anticipiez personne. Lisez Prov 18-13. Prompt à écouter, lent à parler, Prov 17-27. Cela donne le temps de comprendre et fait mûrir une réponse. N'abordez pas un sujet avec beaucoup de mots, limitez vos paroles au sujet, et limitez-les à ce qui est pertinent et clair. La plus vraie éloquence est la plus simple, et parlez brièvement j'entends, brièveté et clarté pour être aisément compris de tous, et en aussi peu de mots que la chose le permet, c'est ce qu'il y a de mieux. Préférez les personnes âgées, vertueuses et instruites, choisissez pour votre compagnie et votre amitié celle qui excelle, mais ne méprisez pas les autres. Ne répondez pas à la colère, sauf avec beaucoup de douceur, qui souvent la détourne, mais faites rarement des répliques, et encore moins une réplique critique, car cela ajoute du combustible au feu. Répondre à la colère n'est pas le bon moment pour vous justifier, car l'oreille véritable n'est alors jamais ouverte pour l'entendre. Les hommes ne sont pas eux-mêmes, et ne comprennent pas de quel esprit ils sont. Le silence devant la passion, les préjugés et la moquerie est la meilleure réponse, et le silence vainque souvent ce que la résistance enflamme. Apprenez et enseignez à vos enfants une belle écriture et les parties les plus utiles des mathématiques, et un métier quand ils sont jeunes, quoi qu'on leur enseigne d'autre. Calculez vos revenus et vivez avec la moitié, si vous le pouvez, avec un tiers, réservant le reste pour les imprévus, les œuvres de charité et les dots. Soyez simple dans les vêtements, le mobilier et la nourriture, mais propre, et plus c'est simple, mieux c'est, le reste est folie et piège. Aussi, après le péché, évitez la recherche de délicatesse et de raffinement quant à notre personne et à nos maisons. Car si ce n'est pas un mal en soi, c'en est une tentation, et cela peut être considéré comme un nid où le péché couve. Éviter les différends, ce qu'on ne peut éviter, référez-les à l'arbitrage dans l'Église, et respectez strictement les jugements qu'on exige de vous sans murmurer. Lisez Proverbe 18:17-18, Proverbe 25:8, Matthieu 5:38-41, 1 Cor 1:10-13, c'est un bon conseil. Veillez à ramener vos affaires dans un cadre aussi étroit que possible, avec méthode et proportion, du temps, et les autres conditions requises qui leur conviennent. N'ayez que très peu de connaissances, et encore moins d'intimes, mais parmi les meilleurs de leur espèce. Gardez vos propres secrets et ne convoitez pas ceux des autres, mais si l'on vous en confie, ne les révélez jamais à moins qu'ils ne mettent quelqu'un d'autre en danger, et pas même alors sans avoir averti la personne de cesser et de se repentir. Proverbe 11:13, Proverbe 25:9-10. Ne faites confiance à personne pour rien de crucial pour vous, en particulier votre chance de trouver la vie, et évitez qu'on vous fasse confiance. Prenez peu de résolutions, mais tenez-les strictement. Préférez les aînés et les étrangers en toutes occasions. Soyez plutôt le dernier que le premier en accommodement et en égard, mais le premier en toute vertu. Gardez-vous de remettre au lendemain, en vous fiant aux efforts de demain, car il n'y a qu'une seule chance de trouver la vie dans votre vie, et il n'est pas sage de bâtir sur une falaise. La sagesse dit de faire d'avance ce qui est important, et enseigne à choisir à propos et en temps opportun, aussi frappez toujours pendant que le fer est chaud. Mais si vous perdez une occasion, cela diffère d'une rechute en ceci. Moins de prudence et plus de résolution et d'application doivent la recouvrer. Par-dessus tout, souvenez-vous de votre Créateur, souvenez-vous de vous-même et de vos familles, lorsque vous en aurez, dans le temps de la jeunesse et au début de votre vie, car les bonnes méthodes et les bonnes habitudes acquises alors vous rendront la vie aisée et heureuse le reste de vos jours. Chaque condition a son piège, la jeunesse et l'âge mûr, le plaisir et l'ambition, la vieillesse, l'avidité de gain. Souvenez-vous, je vous le dis, que l'homme est esclave là où l'un ou l'autre prévaut. Gardez-vous des convoitises destructrices des yeux et de la chair, et de l'orgueil de la vie, 1 Jean 2, 15, 16, 17, qui ne viennent pas du Père mais du monde. Donnez à votre part immortelle des objets plus élevés et plus nobles, ô mes chers enfants, et ne soyez pas attachés aux possessions, car alors vous ne pourrez jamais avoir la jouissance véritable et libre de vous-même pour de meilleures choses, pas plus qu'un esclave à Alger ne jouit de sa maison ou de sa famille à Londres. Soyez libres, vivez chez vous en vous-même, je veux dire, où se trouvent cachés de plus grands trésors que dans les Indes. La pompe, l'honneur et le luxe du monde sont des tromperies, et les inattentifs et inconsidérés s'y laissent prendre. Mais l'homme retiré est sur un terrain plus haut, il voit le piège et en est conscient, condamne la folie et plaint les égarés. Choisissez les métiers de Dieu plutôt que ceux des hommes. Adam était jardinier, Caïn laboureur et Abel bouvier ou berger. Ces métiers ont commencé avec le monde, ont le moins de pièges et le plus d'utilité. Quand Caïn devint meurtrier, comme l'a dit un homme d'esprit, Cowley, dans ses ouvrages sur l'agriculture, il se changea en bâtisseur de ville et abandonna son labour. La fabrication des choses, comme métier, est aussi louable, mais ce n'est qu'une seconde portée des cadets. Si la grâce ne vous emploie pas, que la nature et un art utile le fassent, mais évitez aussi là la curiosité, car elle dévore beaucoup de temps sans profit. J'ai vu un plafond de chambre avec fresques, sculptures, art, etc., qui coûta la moitié autant que la maison, c'est folie et péché aussi. N'ayez que peu de livres, mais qu'ils soient bien choisis et bien lus, qu'ils traitent de sujets religieux ou civils. Fuyez les opinions radicales, mesurez la religion comme le savoir à ce qui est pratique, ramenez tout à cela, car c'est cela qui vous apporte un bénéfice réel, le reste est un voleur et un piège. En vérité, lire beaucoup de livres détourne trop l'esprit de la méditation. Lire sur nous-mêmes et sur la nature, dans les relations et la conduite des hommes, est la plus vraie sagesse humaine. L'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme, et une connaissance plus vraie vient de la méditation et d'une juste réflexion que de la lecture, car trop de lecture opprime l'esprit et éteint la chandelle naturelle, ce qui explique tant de savants dépourvus de sens dans le monde. Ne faites pas ce que vous blâmez chez un autre. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'un autre vous fasse. Mais surtout, ne faites rien sous le regard de Dieu, dont vous auriez honte qu'un homme vous voie le faire. Afin de régler toutes choses utilement, partagez votre journée, une part de temps pour votre recueillement et l'adoration de Dieu, une part pour vos affaires, dans lesquelles souvenez-vous de vous attaquer d'abord à ce qui doit être fait en premier, du temps pour vous-même, que ce soit pour l'étude, la marche, les visites, etc. En cela, soyez ferme, et que vos amis le sachent. Vous couperez ainsi court à bien des impertinences et interruptions, et vous économiserez un trésor de temps que les gens dissipent de la manière la plus incompréhensible. Et pour être plus exact, car beaucoup dépend de ceci, tenez un journal de votre temps, même si une journée ne demande qu'une seule ligne, de nombreux avantages en découlant. Restez fidèles aux réunions du peuple de Dieu, assistez-y avec diligence, afin de sentir la vie céleste dans votre cœur. Cherchez cela plus que des paroles dans le ministère, et vous en profiterez davantage. Par-dessus tout, regardez au Seigneur, mais ne méprisez pas les instruments du Seigneur, ce qu'il a ordonné à son service, homme ou femme, jeune ou vieux, riche ou pauvre, instruit ou non instruit. Évitez les personnes mécontentes, sauf pour les instruire ou les reprendre. Ayez en horreur l'esprit de division, le péché des anges déchus et le pire péché des hommes déchus. Excusez les fautes des autres, reconnaissez les vôtres, et pardonnez ceux qui vous ont offensés, comme vous voudriez que votre Père céleste et juge vous pardonne. Lisez Prov 17:9 et Matthieu 6:14-15. Le Christ revient et insiste sur ce passage de sa prière plus que sur tout le reste, le pardon, la leçon la plus difficile pour l'homme, qui de toutes les autres créatures en manque le plus. Soyez naturel dans l'affection avec les autres, et souvenez-vous que l'absence d'affection naturelle est une marque d'apostasie signalée par l'apôtre, 2 Tim 3:3. Que le temps, je vous en conjure, n'use pas votre affection naturelle. Cela peut être courant selon la coutume, mais c'est une mauvaise coutume, ne la suivez donc pas. C'est aujourd'hui un grand défaut dans les familles. Gardez-vous-en et fuyez cette insouciance contre nature. Vivez aussi près que vous le pouvez, visitez-vous souvent, correspondez plus souvent encore, et communiquez-vous mutuellement avec des cœurs bienveillants, selon ce que le Seigneur vous donne. Et ne soyez pas fermés, ni avares les uns envers les autres, comme si vous n'aviez aucun droit ni aucune part les uns en les autres, et comme si vous n'étiez pas issus d'un même père et d'une même mère très tendre. Ce que j'écris vaut pour les nôtres, autant que pour vous, si Dieu vous donne des enfants. Et si jamais un prodigue, un rebelle contre Dieu devait paraître parmi eux, ne prenez pas sa folie pour prétexte afin de devenir étranger ou fermé, et ainsi exposer cet enfant à plus de mal. Mais montrez des entrailles d'amour, comme Jean l'a fait envers le jeune homme tombé en mauvaise compagnie, qu'il ramena avec amour, à l'exemple de celui qui fait lever son soleil et tomber sa pluie sur tous. Eusèbe 3:23. Aimez le silence même dans l'esprit, car les pensées sont à l'esprit ce que les paroles sont au corps. Pénible, parlez beaucoup comme pensez beaucoup, gaspillez votre vie, et dans la multitude des pensées comme des paroles, il y a du péché. Le vrai silence est le repos de l'esprit, et il est à l'âme ce que le sommeil est au corps, nourriture et rafraîchissement. C'est une grande vertu, il couvre la folie, garde les secrets, évite les disputes et prévient le péché. Voyez Job 13:5, Prov 10:19, Prov 12:13, Prov 13:3, Prov 18:6-7, Prov 17:28. La sagesse des nations se trouve dans leurs proverbes, qui sont brefs et pleins de substance, recriez-les et apprenez-les, car ils sont des mesures et des directions remarquables pour la vie humaine. Vous avez beaucoup en peu, ils font gagner du temps et des paroles, et selon l'occasion, peuvent être les réponses les plus complètes et les plus sûres. Ne vous mêlez jamais des affaires des autres, et encore moins des affaires publiques, à moins d'être appelé aux premières par les parties concernées, auquel cas avancez avec prudence et droiture, et requis pour les secondes par le Seigneur, dans un témoignage pour son nom et sa vérité, vous souvenant de cet ancien proverbe, très vrai et excellent, « Bonne qui la tue, bonne vixi, celui qui vit heureux est celui qui vit caché ou en privé, car il vit en paix. » C'est un trésor pour ceux qui le possèdent, étudiez-le, obtenez-le, ressentez-le, trop de gens le manquent alors qu'ils pourraient l'avoir, le monde n'en connaît pas la valeur. Il double la vie d'un homme en lui donnant deux fois plus de temps pour lui-même, ce que beaucoup d'amis ou beaucoup d'affaires ne lui laissent pas. Gardez-vous du ressentiment devant ou au sujet de ce qui survient mal à propos, passion naturelle, prompte et des plus dangereuses, mais soyez plus prêt à remettre qu'à vous offenser, c'est plus chrétien et plus sage. De même que la douceur vainque souvent là où l'opposition rude fortifie, ainsi le ressentiment, connaissant rarement des bornes, crée souvent une faute bien plus grande que celle à laquelle il réagit. Car certains ont tant outrepassé leur ressentiment de l'injustice qui leur était faite qu'ils se sont rendus plus fautifs, par là, ils annulent la dette, une passion sans borne renversant leur intérêt et leur avantage, et ils deviennent ainsi débiteurs envers l'offenseur. Ne te réjouis pas du malheur de qui que ce soit, fut-il ton ennemi, Prov 17:5, Prov 24:17. N'enviez personne, c'est Dieu qui rend riche ou pauvre, grand ou petit, haut ou bas, psaume 37:1, Prov 3:31, Prov 23:17, 1 Chr 22:11-12, Prov 24:1, psaume 107:40-41, soyez inébranlables, n'aggravez jamais, ne raillez jamais et ne donnez pas de mauvais surnoms, c'est impoli autant qu'antichrétien. Souvenez-vous de Matthieu 5:22, où il est dit, « Celui qui traite son frère d'insensé est en danger du feu de la géhenne. Ne soyez pas morose ni suffisant, l'un est grossier, l'autre est importun et nauséabond. » Évitez les questions et les crêles, cela montre une disposition indiscrète et crêleuse. N'ajoutez aucune crédibilité à un récit par supposition et ne rapportez rien au détriment de qui que ce soit. Voir Exode 23:1, Psaume 15:3. Gardez-vous de la jalousie sauf si elle est selon Dieu, car elle dévore l'amour et l'amitié, elle brise la communion et détruit la paix de l'esprit. c'est une suspicion sans fondement et mauvaise. Ne soyez pas trop prompt à croire. Lisez Prov 14-15. La prudence est un juste milieu, je vous la recommande. Ne parlez pas de religion et n'employez pas le nom de Dieu d'une manière non contrainte. Ne vous mêlez pas du gouvernement, ne lui parlez jamais, laissez les autres dire ou faire comme il leur plaît. Mais lisez des livres de droit qui concernent la charge d'un juge de paix, d'un coroné, d'un shérif et d'un constable. Lisez aussi de Dr. Student, quelques livres de greffe et un traité des testaments. Tout cela seulement afin de vous rendre capable de gérer vos affaires privées ou celles d'un pauvre voisin. Car voici la charge que je laisse à vous et aux vôtres. Ne vous mêlez pas des affaires publiques, ni de leurs affaires ni de leur argent, mais comprenez comment les éviter et vous défendre, au besoin, contre elles. Car beaucoup de connaissances apportent de la tristesse et beaucoup d'agissements encore davantage. Connaissez donc Dieu, connaissez-vous vous-même, aimez la maison, connaissez vos propres affaires, occupez-vous-en, et vous aurez plus de temps et de paix que vos voisins. Si vous êtes porté à vous marier, mariez-vous selon votre inclination plutôt que pour un gain matériel, je veux dire ce que vous aimez plutôt que ce qui est riche. Mais aimez pour la vertu, le caractère, l'éducation et la personne, avant la richesse ou la condition, et assurez-vous d'être aimé en retour. En tout cela, ne soyez pas hâtif mais sérieux. Mettez-le devant le Seigneur, avancez dans sa crainte et prenez de bons conseils. Et une fois marié, selon la manière du peuple de Dieu, parmi lequel seulement choisissez votre conjoint, gardez strictement l'alliance. Évitez les occasions de malentendus, faites place aux faiblesses et à la diversité des constitutions et des dispositions, et prenez garde de montrer le moindre dégoût ou malentendu à d'autres, surtout à nos enfants. Ne vous couchez jamais pour dormir avec du déplaisir dans l'esprit. Évitez plutôt les occasions de dispute et d'offense. Passez sur les manquements et couvrez-les. Cherchez le Seigneur l'un pour l'autre, attendez-vous à lui ensemble matin et soir, dans sa sainte crainte, ce qui renouvellera et confirmera votre amour et votre alliance. Ne cédez à rien qui puisse, en quoi que ce soit, la violer. Usez de tous les moyens de véritable tendresse afin de vous recommander et de vous plaire l'un à l'autre, vous souvenant que notre relation et notre union sont la figure de celle du Christ avec son Église. Que l'autorité de l'amour seul gouverne donc toute notre vie. Si Dieu vous donne des enfants, aimez-les avec sagesse, corrigez-les avec affection. Ne frappez jamais dans la colère et proportionnez la correction à leur âge aussi bien qu'à leur faute. Convainquez-les de leur erreur avant de les châtier et éprouvez-les, s'ils montrent du repentir, avant la sévérité. N'usez de celle-ci que dans le cas d'obstination ou d'impénitence. Punissez-les davantage par leur intelligence que par la verge et montrez-leur la folie, la honte et le manquement au devoir de leur faute plutôt avec un visage affligé qu'avec une mine irritée, et vous toucherez plutôt leur nature, et avec un sentiment plus noble, qu'un châtiment servile et grossier ne saurait produire. Je connais les méthodes de certains, des corrections sévères pour les fautes, et des louanges artificielles quand ils font bien, et parfois des récompenses, mais cette voie éveille des passions pires que leurs fautes. Car la première engendre une peur servile, sinon de la haine. La seconde engendre l'orgueil et la vaine gloire, deux choses qu'il faut éviter dans une éducation religieuse de la jeunesse, car elles s'en écartent également et corrompent la nature. Il faut le plus grand soin imaginable quant aux impressions données aux enfants. La méthode qui éveille le plus tôt leur intelligence à l'amour, au devoir, à la sobriété, aux choses justes et honorables, est à préférer. L'éducation est l'empreinte que les parents donnent à leurs enfants. Ils passent pour ceux qui les ont élevés, ou peut-être d'une valeur moindre, tous les jours de leur vie. Le monde ne manque de rien davantage et n'est répréhensible en rien plus, tant en précepte qu'en exemple, que dans ce qu'ils font de l'âme de leurs enfants lorsqu'ils les mettent en pension école pour tant parents. Ils ne confieront leur domaine ou leurs boutiques à personne d'autre qu'à eux-mêmes, mais pour leurs âmes et leur postérité, ils ont moins de soucis. Élevez donc vos enfants vous-même, je veux dire quant à leur mœurs, et soyez leurs évêques et leurs maîtres dans les principes de la conduite. Comme ils sont instruits, ainsi sont-ils susceptibles d'être formés, et votre postérité aussi, par leurs préceptes et leurs exemples qu'ils reçoivent de vous. Si les hommes étaient plus prudents en cela, ils s'acquitteraient mieux de leurs devoirs envers Dieu et la postérité, et leurs enfants leur devraient davantage pour leur éducation que pour leurs héritages. Ne soyez pas inégaux dans votre amour pour vos enfants, du moins dans les apparences, c'est à la fois injuste et indiscret. Cela diminue l'amour des enfants pour leurs parents et provoque l'envie entre frères et sœurs, qu'ils portent les mêmes vêtements, mangent du même plat et la même allocation quant au temps et à la dépense. Formez-les à quelques métiers et donnez à tous également sauf à l'aîné, et à l'aîné une double part convient fort bien. Enseignez-leur aussi l'économie et ils ne manqueront pas de bien pour leur postérité. Un petit commencement avec l'industrie et l'épargne fera un patrimoine, mais il y a une grande différence entre économiser et être sordide. Ne soyez ni chiche, ni superflu, mais soyez plutôt hardi avec vous-même que d'être étroits envers les autres, que votre charité tempère donc votre frugalité et la leur. Ce que je vous ai écrit, je l'ai écrit à vos enfants et aux leurs. Vous aurez des serviteurs, mais souvenez-vous que moins il y en a, mieux c'est, et qu'ils soient plutôt âgés que jeunes, autrement il faut les former ainsi ou s'en défaire souvent. Le changement n'est pas bon, choisissez donc bien, et d'autant plus à cause de vos enfants. Car les enfants, pensant pouvoir prendre plus de liberté avec les serviteurs qu'avec leurs parents, recherchent souvent la compagnie des serviteurs, et s'ils sont oisifs, débauchés de mauvais exemples, les enfants courent grand danger d'être pervertis. Qu'ils soient donc amis avec ceux qui sont bien recommandés, qu'ils connaissent leur travail aussi bien que leur salaire, et comme ils font l'un, payez-leur honnêtement l'autre. Quoique serviteurs, souvenez-vous pourtant qu'ils sont frères en Christ, et que vous-même n'êtes que des intendants, et devez rendre compte à Dieu. Que votre modération leur apparaisse donc, et cela les excitera à la diligence par amour plutôt que par crainte, qui est le motif le plus vrai et le meilleur du service. Bref, selon ce que vous trouvez en eux, gardez-les, employez-les et récompensez-les ou congédiez-les. La défiance est de la nature de la jalousie et ne doit être acquise qu'avec prudence sur de bons fondements. Sinon, elle est nuisible aux autres et, au lieu de vous mettre en sûreté, elle vous devient pénible. Si vous faites peu confiance, vous n'aurez que peu de raisons de vous défier. Pourtant, j'ai souvent entendu en moi, au premier regard, un murmure au sujet des personnes et des choses, premières impressions, réactions instinctives et un mouvement qui manquait rarement d'être vrai. Mais en négligeant ce sentiment, ou en me laissant en détourner par des arguments et des rationalisations, il m'est arrivé plus d'une fois d'être trompé dans mon attente. Ayez donc un égard très délicat et très attentif à ces sensations premières, soudaines et non préméditées. Quant à votre conduite dans vos affaires et dans toute la suite de votre vie, bien que ce que je vous ai dit et recommandé puisse suffire, je serai toutefois plus particulier touchant ces bonnes et gracieuses qualités. Je prie Dieu Tout-Puissant de vous en imprégner et de vous en accomplir pour sa gloire et pour votre félicité temporelle et éternelle. Chapitre Y Soyez humbles. Cela cède à une créature, à un être dépendant et emprunté, qui ne vit pas de lui-même, mais respire dans l'air d'un autre, avec le souffle d'un autre, qui doit rendre compte de chaque moment du temps, qui ne peut rien appeler sien, mais n'est absolument qu'un locataire à volonté du grand Seigneur du ciel et de la terre. Vous ne sauriez manquer de cette excellente qualité d'humilité si vous demeurez dans la sainte crainte du Dieu omniprésent et qui voit tout. Car elle vous montrera votre bassesse et son excellence, votre pauvreté spirituelle et sa majesté, et en outre, le sentiment de son amour pour de si pauvres vers, dans les témoignages qu'il donne de son soin quotidien, de sa miséricorde et de sa bonté, de sorte que vous ne pourrez qu'être abaissé, humilié et humble. Je dis que la crainte et l'amour de Dieu nourrissent l'humilité, et que l'humilité vous rend propre à Dieu et aux hommes. Vous ne pouvez faire un faux pas si cette vertu demeure richement en vous, car alors Dieu vous enseignera. Il enseigne ses voies aux humbles, et elles sont toutes agréables et paisibles pour ses enfants. Oui, il donne la grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. James 4, 6, 1 Pierre 5, 5. Il regarde de loin les orgueilleux. Psaume 138, 6. Ils ne s'approcheront pas de lui, et il ne les écoutera pas au jour de leur détresse. Lisez Prov 11, 2, Prov 15, 33, Prov 16, 18, 19. L'humilité ne cherche pas le dernier mot ni la première place. Elle n'offense personne, mais préfère les autres et pense humblement d'elle-même. Elle n'est ni rude ni présomptueuse, ni hautaine, ni bruyante, ni dominatrice. Heureux ceux qui la possèdent. Apprenez de moi, disait le Christ, car je suis doux et humble de cœur. Il lava les pieds de ses disciples, Jean 13, 5. En vérité, il en fut le plus grand modèle. L'humilité précède l'honneur, Prov 18, 12. Rien ne brille plus clairement dans le christianisme que l'humilité, dont le saint auteur est le plus grand exemple. Il fut humble dans son incarnation, car il ne considéra pas l'égalité avec Dieu comme une proie à saisir, et s'abaissa pour devenir homme, et de bien des manières, il s'anéantit. D'abord dans sa naissance ou sa descendance, il ne vint pas des princes de Juda, mais d'une vierge de basse condition fiancée à un charpentier, et elle le reconnaît ainsi dans son cantique céleste ou récit Luc 1 47 48 52 parlant du grand honneur que Dieu lui avait fait, et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon sauveur, car il a regardé la bassesse de sa servante, il a renversé les puissants de leur trône et élevé les humbles. Deuxièmement, il fut humble dans sa vie. Il ne tint point de cours, sinon dans les déserts et les montagnes, et dans des lieux solitaires. Il ne fut pas servi avec apparat, ses compagnons étant de simples pêcheurs et artisans. Par les miracles qu'il fit, on peut comprendre la nourriture qu'il mangeait, à savoir du pain d'orge et du poisson, et il est peu probable qu'ils fussent préparés avec élégance, et nous avons raison de croire que son vêtement était aussi modéré que sa table. Troisièmement, il fut humble dans ses souffrances et sa mort. Il supporta patiemment tous les affronts, et dans notre nature triompha de la vengeance. Il fut méprisé, on cracha sur lui, on le souffleta, on le fouetta, et enfin on le crucifia entre deux voleurs comme le plus grand des malfaiteurs. Pourtant il ne les injuria jamais, mais répondit à tout par le silence et la soumission, plaignant, aimant, et mourant pour ce par qui il fut ignominieusement mis à mort. Ô miroir d'humilité, que vos yeux y soient continuellement fixés, afin que vous vous y voyez vous-même. En effet, toute sa vie fut un grand acte continu d'abnégation, et parce qu'il n'en avait pas besoin pour lui-même, il le fit pour nous, nous laissant ainsi un exemple, afin que nous suivions ses traces, 1 Pierre 2:21. Et comme il était, ainsi devrions-nous être en ce monde, selon le disciple bien-aimé, 1 Jean 2:6. Ainsi ce qu'il fit pour nous n'était pas pour excuser mais pour exciter notre humilité. Car comme il est semblable à Dieu, nous devons lui être semblables. Et il est très évident que l'homme emporté, crêleur, vindicatif, frappeur, batailleur, etc., ne peut être dit humble. Pour mieux illustrer cette vertu, je voudrais que vous considériez la folie et le danger de l'orgueil son contraire. Car l'orgueil est ce qui jeta les anges hors du ciel, l'homme hors du paradis détruisit des villes et des nations, fut l'un des péchés de Sodome, Ésaïe 16:49, la ruine de la Syrie et d'Israël, Ésaïe 3:16, et la raison donnée par Dieu de sa grande vengeance contre Moab et Ammon, Sophe 2:9-10. De plus, l'orgueil est la passion la plus vaine qui puisse dominer l'homme, puisqu'il n'a rien en propre dont il puisse s'enorgueillir, et s'enorgueillir de ce qui est à un autre, votre corps et le monde entier appartiennent à Dieu montre aussi un manque d'esprit et d'honnêteté. L'homme non seulement ne s'est pas fait lui-même, mais il n'est nu et le plus impuissant de presque toutes les créatures. Il ne peut ajouter à ses jours ni à sa taille, ni même rendre un seul cheveu de sa tête blanc ou noir. Il est si absolument au pouvoir d'un autre que, comme je l'ai souvent dit, il n'est au mieux qu'un locataire à la volonté du grand seigneur de tout, tenant vie, santé, biens et toute chose à sa souveraine disposition. Et plus l'homme jouit, moins il a de raison d'être orgueilleux, parce qu'il est d'autant plus redevable, et tenu à la reconnaissance et à l'humilité. Évitez donc l'orgueil, comme vous éviteriez le diable, souvenez-vous que vous devez mourir, et que, par conséquent, ces choses qui pourraient être une tentation à l'orgueil doivent mourir avec vous, et qu'un jugement suit, où vous devrez rendre compte, tant de ce que vous aurez possédé que de ce que vous aurez fait. De l'humilité naît la douceur. Parmi toutes les rares qualités de sagesse, de science, de valeur, etc., dont Moïse était pourvu, c'est par sa douceur qu'il fut désigné, elle donna aux autres un éclat qui leur eût autrement manqué. La différence n'est pas grande entre ces excellentes grâces, pourtant l'Écriture en remarque certaines. Dieu enseignera sa voie aux doux et guidera les doux dans le jugement. La douceur semble être l'humilité parfaitement digérée, et de vertu devient nature. Un homme doux est celui qui n'est pas facilement provoqué, et pourtant facilement attristé, non pas chagrin ou irritable mais souple, aimable et inoffensif. Oh que vous serez heureux mes chers enfants si cette grâce vous orne. Il y a dans l'Écriture plusieurs grandes et précieuses promesses pour les doux. Que Dieu revêtira les doux du salut, et heureux les doux, car ils hériteront la terre, Psaume 37:11 Matthieu 5:5. Le Christ l'appuie par son propre exemple, « Apprenez de moi, car je suis doux et humble. » Matthieu 11:29. Et il nous demande de devenir comme de petits enfants afin de recevoir le salut, Matthieu 18:3. Et un esprit doux et paisible est d'un grand prix devant le Seigneur, 1 Pierre 3:4. C'est un fruit de l'esprit, Galates 5:22-23. Elle est recommandée, Éphésiens 4:2, Colossiens 3:12, Tite 3:2 et en beaucoup d'autres endroits au même effet. La patience est un effet d'un esprit doux et en découle, c'est une disposition à supporter et à souffrir, non pas chagrine, ni facilement portée à la colère, ni vindicative, mais prête à écouter et à endurer aussi, plutôt qu'à être prompte et précipitée en jugement ou en action. Job est autant renommé pour sa patience que Moïse le fut pour sa douceur. Sans patience, il n'y a pas de course chrétienne à mener, ni de couronne céleste à obtenir. Sans patience, il ne peut y avoir d'expérience de l'œuvre de Dieu, Romains 5:3-5. Car la patience produit, dit l'apôtre, l'expérience, et l'espérance d'une récompense éternelle, car l'expérience produit cette espérance. C'est pourquoi, dit Jacques, que la patience accomplit son œuvre parfaite, Jacques 1:4, elle a fait l'excellence des saints, voici la patience des saints, Apoc 13:10, elle est jointe au royaume du Christ, Apoc 1:9, lisez Luc 21:19, par votre patience vous posséderez vos âmes, Romains 12:12, Romains 15:4, 2 Cor 6:4, 1 Cor 5:14, soyez patients envers tous les hommes. Tite 2:2, Hèbes 6:12, Hèbes 10:36, ce qui montre l'excellence et la nécessité de la patience, comme la vraie dignité d'un homme montre la patience. Elle est sage et vous donnera un grand avantage sur ceux avec qui vous conversez à tous égards. Car la passion aveugle les yeux des hommes et trahit leur faiblesse, la patience voit l'avantage et l'améliore. La patience interroge, délibère et conduit à un jugement mûr. Dans votre vie civile comme dans votre vie chrétienne, vous ne pouvez agir sagement et sûrement sans elle. Je vous recommande donc cette vertu bénie. Faites miséricorde chaque fois que cela est en votre pouvoir, c'est-à-dire pardonnez, plaignez et aidez signe de la miséricorde. La miséricorde est l'un des attributs de Dieu, Gênesis 19:19, Exode 20:6, Psaume 86:15, Jère 3:12. Elle est exaltée dans l'Écriture au-dessus de toutes ses œuvres et est une noble part de son image en l'homme. Dieu l'a recommandé aux Hébreux 12:6. Gardez la miséricorde et le jugement et attendez le Seigneur. Dieu l'a montré à l'homme et en a fait son devoir, Michée 6:8. Il t'a montré, ô homme, ce qui est bon et ce que l'Éternel exige de toi. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement, ou t'humilier pour marcher avec ton Dieu. Expression brève mais ample de l'amour de Dieu et du devoir de l'homme, heureux êtes-vous si vous y prenez garde. Vous y voyez que la miséricorde est l'une des plus nobles vertus. Le Christ a une bénédiction pour ceux qui la possèdent. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, Matthieu 5:7, un puissant motif en vérité. Dans Luc 6, 35-36, il la commande « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux ». Il dit aux Juifs, si excessivement juste et pourtant si peu miséricordieux, « Apprenez ce que cela signifie, je veux la miséricorde et non le sacrifice », Matthieu 9-13. Il les frappa au cœur, et dans sa parabole du maître et de ses serviteurs, il montre quelle sera la fin de l'intendant sans miséricorde, Matthieu 18, 34-35, ayant été beaucoup pardonné par son maître, il ne voulait pas pardonner peu à son compagnon de service. La miséricorde est une grande partie de la loi de Dieu, Exode 20-6. Elle est une partie essentielle du vrai jeûne de Dieu, Ésaïe 58-6-7. Elle est une part principale de l'alliance de Dieu, Jère 31-34, Hébreux 8-12. Et la raison et la règle du jugement dernier, Matthieu 25-31 jusqu'à la fin, veuillez le lire. Elle est une part de la religion pure, Jacques 1-27, Jacques 3-17, lisez Prov 14-21-22. Mais la miséricorde de l'homme miséricordieux s'étend plus loin, même jusqu'à sa bête, à plus forte raison, il ne manquera pas de miséricorde envers l'homme, son semblable. C'est pourquoi, je vous en conjure, n'opprimez personne, ni homme ni bête. Ne tirez aucun avantage de l'infortuné, ayez pitié de l'affligé. Faites de sa cause la vôtre, et de celle de ses femmes, et de ses pauvres enfants innocents la condition des vôtres, et vous ne manquerez pas de compassion, d'affection, de pardon, ni d'une disposition à les aider et secourir selon vos moyens. Souvenez-vous que c'est la voie pour être pardonné et aidé au temps de l'épreuve. Lisez la prière du Seigneur, Luc 11, 1-4. Souvenez-vous de la nature et de la bonté de Joseph envers ses frères, suivez l'exemple du bon Samaritain, et que l'inhumanité des hommes envers la race de Jacob, Abdias 1-16, et celle des païens envers Israël, Zacharie 1-21, Zacharie 2-8-9, vous servent d'avertissement. Lisez aussi Prov 25-21-22, Rome 12-19-20. La charité est une proche voisine de la miséricorde. On l'entend généralement comme consistant en ceci, ne pas être censeur et secourir les pauvres. Pour le premier point, souvenez-vous que vous devez être jugé, Matthieu 7:1. Et pour le dernier, souvenez-vous que vous n'êtes que des intendants. Ne jugez donc point de peur d'être jugé. Soyez vous-même irréprochable avant de jeter la pierre. Ôtez la poutre de votre œil, c'est une doctrine humiliante, mais sûre. Jugez donc à vos risques, veillez à ce que ce soit un jugement juste, comme vous en répondrez devant le grand juge. Cette partie de la charité exclut aussi les chuchotements, la médisance, les rapportages, les mauvais soupçons, folies et mots très pernicieux dont gardez-vous. Lisez 1 Cor 13. Quant à l'autre partie de la charité, le soulagement des pauvres, c'est une dette que vous devez à Dieu. Vous avez tout ce que vous avez ou pouvez jouir, grevé d'une rente à leur profit. On dit « celui qui donne aux pauvres prête au Seigneur », mais on peut dire, non sans raison, « le Seigneur nous prête afin que nous donnions aux pauvres ». Les pauvres sont, au moins par la Providence, vos associés, et ont un droit dont vous ne devez pas les frustrer. Vous avez certes ce privilège, qu'en quoi et à qui, et pourtant si vous écoutez votre guide et observez l'objet, vous aurez aussi une règle pour cela. Je vous recommande surtout les petits-enfants, les veuves, les infirmes et les personnes âgées. Retranchez plutôt quelque chose de votre propre ventre que de laisser le leur souffrir la privation. Évitez ce grand péché de dépenses inutiles pour votre personne et vos maisons, tandis que les pauvres ont faim et sont nus. Il m'est souvent arrivé d'être profondément ému en voyant des personnes très âgées et infirmes, mais surtout de pauvres enfants sans secours, couchés toute la nuit, par un temps rigoureux sur le seuil des portes dans les rues faute d'un meilleur gîte. J'ai fait cette réflexion, si vous étiez ainsi exposé, comme il serait dur d'endurer. La différence entre notre condition et la leur a tiré de moi de humbles actions de grâce à Dieu, et une grande compassion, en secourant quelques-uns de ces pauvres êtres. Encore une fois, soyez bons envers les pauvres, que dis-je ? Soyez justes envers eux, et vous serez bons envers vous-même. Regardez-le comme votre devoir et faites-le religieusement. Que ce passage touchant, Matt 25, 35 jusqu'à la fin, demeure vivant dans vos esprits. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais nu malade et en prison et vous m'avez assisté. Et la bénédiction qui suivit, ainsi que ce qu'il dit à une autre sorte, j'ai eu faim et soif et j'étais nu malade et en prison et vous ne m'avez pas assisté. Car une sentence terrible suit pour le monde au cœur dur. Malheur à ceux qui prennent le gage du pauvre, Ésaïe 18, 12, 13, ou qui dévorent le droit du pauvre. Oh, ne dévorez pas leur part, à plus forte raison ne la dissipez pas en vanité, et ne l'amassez pas dans des sacs, car elle maudira le reste. Écoutez ce que dit le psalmiste, psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, l'Éternel le délivrera au temps de la détresse. L'Éternel le gardera et le fera vivre, et il sera béni sur la terre, tu ne le livreras pas à la volonté de ses ennemis. L'Éternel le soutiendra sur son lit de douleur, tu le fortifieras sur sa couche de maladie. Telle est la récompense d'être de fidèles intendants et trésoriers pour les pauvres de la terre. Méfiez-vous des excuses, elles sont, je le sais, aisément prises, mais lisez Proverbe 3, 27, 28. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, quand il est en ton pouvoir de le faire. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, et demain je donnerai, quand tu l'as chez toi. Gardez aussi en mémoire la doctrine du Christ, Matt 5, 42. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Mais surtout, souvenez-vous de la pauvre femme qui donna sa pite, que le Christ préféra à toutes parce qu'elle donna tout, et c'était au trésor de Dieu, Marc 12, 42, 44. Ne faites pas l'erreur de penser que votre contribution à votre secte est regardée avec faveur par Dieu. Aucun vrai prophète ne demandera d'argent, aucun vrai prophète n'acceptera un salaire, aucun vrai prophète ne sollicitera votre don pour obtenir sa faveur. La dîme faisait partie de la loi qui a pris fin, une ordonnance du sacerdoce lévitique, abolie par le sacerdoce éternel de Jésus-Christ. Un vrai prophète encouragera une contribution pour répondre aux besoins des pauvres, mais sans aucun intérêt ni réception d'aucune part. Si vous soutenez un faux prophète, vous attirez la condamnation sur vous-même, particulièrement après avoir été averti de reconnaître un faux prophète qui sollicite de l'argent, dont il pourrait prendre ne serait-ce que la moindre part. La libéralité dans le don, ou la générosité, est une noble qualité chez l'homme, possédée par peu et pourtant louée par tous, mais les avares la détestent parce qu'elle reproche leur cupidité. En cela, la libéralité diffère de la charité, qu'elle a parfois d'autres objets, et qu'elle dépasse dans la proportion. Car elle jettera les yeux sur ce qui ne manque pas absolument, aussi bien que sur ce qui manque, et elle va toujours au-delà des nécessités et des services. Elle découvre la vertu dans une condition humble, et l'exalte. Elle allège le fardeau de ceux qui travaillent durement pour vivre, beaucoup de bonté et de générosité les atteignent de sa main, eux qui ne manquent pas tout à fait, mais qu'elle juge dignes. Les déchus ne manqueront pas d'entendre parler d'elle, elle prend un enfant et en place un autre, pour alléger les charges de parents trop accablés, plus encore pour les orphelins. Elle marque la valeur des services par ses récompenses, et n'est jamais débitrice de bienfaits, mais se fait créancière à tous égards. Là où un autre donne 6 pence, l'homme libéral en donne 20, et rend le double des marques qu'il reçoit. Mais la libéralité est aussi modérée, elle n'est pas prodigue, pas plus qu'elle n'est cupide, car elle est les festins de la foire aux vanités autant que les jeûnes du pharisien, et comme elle est libre et non raide, elle est abondante, mais non superflue ni extravagante. Vous entendrez parler d'elle dans toutes les histoires, surtout dans l'Écriture, le plus sage comme le meilleur des livres, son excellence et sa récompense s'y trouvent. Elle est commandée et recommandée 2 15 3 4 7 8 et psaume 37 21 26. Le juste fait miséricorde et donne, et l'homme de bien est miséricordieux et prête toujours. Il fait grâce, il prête, et il répand au loin, psaume 112 5 9. Il y en a qui dispersent et augmentent encore, et il y en a qui retiennent plus qu'il ne convient, mais cela tend à la pauvreté. L'âme libérale sera rassasiée, Prov 11, 24, 25. L'œil généreux sera béni, Prov 22, 9. L'homme chiche et l'homme libéral sont décrits, et une promesse est faite à ce dernier, sa libéralité le soutiendra, Ésaïe 32, 78. Le Christ en fait une part de sa religion, et la voie d'être enfant du trésor, lisez Luc 6, 34, 35. Prêtez sans rien espérer en retour, et cela aux ennemis comme aux amis, oui aux ingrats et aux méchants, aucune exception n'est faite, aucune excuse admise. L'apôtre Paul, 2 Corinthiens 9, 5, 10, l'ordonne, menace ceux qui ont la main serrée, et promet à ceux qui ont le cœur ouvert une libérale récompense. Un avertissement du Seigneur en 2009, vous devez distribuer généreusement, voir la nécessité de donner aux pauvres. À partir de votre surplus, exercez-vous à donner généreusement aux autres, particulièrement aux pauvres. Luc 12, 33, 2 Corinthiens 9, 9 « N'amassez pas de trésors sur la terre qui ne durent pas, mais amassez des trésors éternels dans le ciel. Car là où est votre trésor, là est votre cœur. » Matt 6, 19, 21 « Donnez, donnez, et votre Père vous récompensera en secret. » Matt 6:4 La seule chose qui compte, c'est la foi, qui est rendue active et démontrée par des œuvres d'amour. Galates 5:6 Considérons comment nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux 10:24 Partout donc, mes chers enfants, où la libéralité vous est demandée, Dieu vous y rendant capable, ne semez ni chichement ni à contre-cœur, mais avec un esprit joyeux, et vous ne serez pas sans récompense, quoique cela ne doive pas être votre motif. Mais évitez d'étaler votre libéralité, car c'est employer la vertu pour la vanité, ce qui vous poussera à un extrême, puis au besoin, lequel engendre l'avidité, et cette avarice l'extrême contraire, comme des hommes peuvent aller vers l'ouest jusqu'à arriver à l'est, et voyager jusqu'à ce que, et ce qu'ils ont laissé derrière eux se tiennent opposés comme le haut et le bas. La justice, ou la droiture, est un autre attribut de Dieu de 32:4, Psaume 9:7-8, Psaume 5:8, Dan 9:7 d'une grande portée dans la vie et le devoir de l'homme. Soyez donc justes en toutes choses envers tous, envers Dieu votre Créateur, rendez-lui ce qui est à lui vos cœurs, car il s'est réservé cette propriété, par laquelle vous avez droit aux consolations de cette vie et d'une meilleure. Et s'il a nos cœurs, vous l'avez pour trésor, et avec lui toutes choses requises pour notre bonheur, rendez aussi à César ce qui est à lui, une soumission légitime, non par crainte seulement mais par conscience, à vos parents un amour filial et l'obéissance, les uns envers les autres l'affection naturelle, traitez tous les hommes comme vous voudriez être traités par eux. Ne blessez le nom ni la personne de personne. Ne convoitez la propriété d'aucun homme, de quelque sorte qu'elle soit. Considérez bien la tendresse de David envers Saül, quand celui-ci cherchait sa vie, pour exciter votre devoir, et la convoitise injuste d'Achab et le meurtre de Naboth, pour provoquer votre horreur de l'injustice. David, quoique un roi, ne profita d'aucun avantage. Il crut, et par conséquent ne se hâta point, mais laissa à Dieu le soin de clore le règne de Saül, car il ne voulait pas le hâter. Une juste méthode et une bonne fin, mes chers enfants, Dieu vous l'a montré et l'exige de vous, souvenez-vous de la loi. C'est Dieu qui l'a donnée, et c'est lui qui vous jugera par elle. Elle comprend la restitution aussi bien que l'acquisition, et spécialement le salaire du pauvre, Lev 19:13, 2:24, 14:15, Jer 22:13, Amos 5:11, Mal 3:5. Samuel est un grand et bon exemple de droiture, 1 Sam 12:3. Il défia toute la maison d'Israël de nommer quelqu'un qui l'eût opprimé ou fraudé. L'apôtre fit de même envers les Corinthiens, 2 Cor 7:2. Il exhorta les chrétiens à veiller à ne frauder personne, 1 4:6. Pour cette raison que Dieu était le vengeur de l'opprimé. Si grave qu'ait été une injustice reçue, il ne doit pourtant pas y avoir de recours aux tribunaux civils entre chrétiens, 1 Cor 6:7. De tout votre pouvoir donc, ne devez rien à personne, sinon l'amour, et cela avec prudence aussi bien qu'avec justice, car la justice vous donne de la réputation et ajoute une bénédiction à vos biens. C'est la meilleure sûreté que vous puissiez avoir pour eux. Je conclurai ce sujet par quelques gravures pour chaque branche. À vos supérieurs, soumettez-vous à toute institution humaine, à cause du Seigneur 1 Pierre 2:13. Obéissez à ceux qui ont autorité sur vous, Hèb 13:17. Ne parlez pas en mal des dignités, Jude 1:8, 2 Pierre 2:10. Mon fils craint l'Éternel et le roi, et ne te mêle pas de ceux qui aiment le changement, Prov 24:21. À vos parents, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, Exode 20, 12. Enfants, obéissez à vos parents, c'est le premier commandement avec promesse, Éphésiens 6, 1, 2. De grands jugements suivent ceux qui désobéissent à cette loi et frustrent leurs parents de ce qui leur est dû. Celui qui dépouille son père ou sa mère et dit, ce n'est pas un péché, celui-là est le compagnon d'un destructeur, Prov 28, 24. Ou bien de tels détruiraient leurs parents s'ils le pouvaient. Le prophète Ézéchiel en accuse Jérusalem comme d'une marque de son état de méchanceté. Chez toi, les princes ont méprisé le père et la mère, opprimé l'étranger, maltraité l'orphelin et la veuve, Ézéchiel 22, 6-7. À votre prochain, écoutez ce que les serviteurs de Dieu ont enseigné. Pratiquer la justice et le jugement est plus agréable à l'Éternel que le sacrifice, Prov 21, 3. Des poids et mesures divers sont aussi une abomination devant l'Éternel, Lévi 19, 36, 2, 25, 13, 16 inclus, Prov 11, 1, Prov 20, 10, 23. Lisez Prov 22, 16, 22, 23, Prov 23, 10, 11. Parcourez Michée 6, ainsi que Zacharie 8, 16, 17, et surtout le psaume 15, comme une mesure brève mais pleine de la vie, pour obtenir l'acceptation auprès de Dieu. Je ne vous ai dit que peu de choses sur la distribution de la justice, ou sur le fait d'être juste dans le pouvoir ou le gouvernement, car je souhaiterais que vous ne vous mêliez jamais de cela, à moins que ce ne soit fondé sur vos propres principes. Et alors, moins vous en aurez à faire, mieux ce sera, à moins que Dieu ne l'exige de vous. Mais si jamais tel est notre lot, ne considérez aucun homme selon la chair. Ne connaissez ni riche ni pauvre, ni grand ni petit, ni parent ni étranger, mais considérez la cause, selon notre intelligence et notre conscience, sur une enquête et une information mûrement délibérée. Lisez Exode 23, 1, 10, 2, 1, 16, 17, 2, 16, 19, 20, 2, 24, 17, 2, Sam 23, 3, Gère 23, 4, Prof 24, 23, Lame 3, 35, 36, Osée 12, 6, Amos 8, 4, 8, Sof 2, 3, Sof 3, 1, 3, Zacharie 7, 9, 10, Gère 5, 4, 6 et Gère 8, 6, 7, qui montrent à la fois les commandements et les plaintes de Dieu et le devoir de l'homme en autorité, devoir que, comme je l'ai dit auparavant, écarté avec. Car la vie privée est exempte du tumulte, du danger, de l'embarras et de la tentation qui accompagnent les charges du gouvernement. Ne vous en mêlez jamais à moins que ce ne soit pour Dieu. L'intégrité est une grande et louable vertu. Un homme intègre est un homme vrai, un homme courageux et un homme constant. On peut lui faire confiance et s'appuyer sur lui. Aucun pot de vin ne peut le corrompre, aucune peur ne l'abat. Sa parole vient lentement mais sûrement. Il brille le plus dans le feu, et c'est au temps du plus grand besoin de son ami que son ami entend le plus parler de lui. Son courage croît avec le danger, et il vainque l'opposition par une fidélité constante. De même qu'on ne peut ni le flatter ni l'effrayer pour lui faire faire ce qu'il désapprouve, ainsi il est chez les autres la flatterie et les délais évasifs. Il court avec la vérité et non avec les temps, avec le droit et non avec la force. Sa règle est droite, vite vue mais rarement suivie, elle a accompli de grandes choses. C'est l'intégrité qui a préféré l'offrande d'Abel, transporté Enoch, sauvé Noé, élevé Abraham à être l'ami de Dieu et le père d'une grande nation, arraché l'eau de Sodome, béni et accru Jacob, gardé et élevé Joseph, soutenu et rétabli Job, honoré Samuel devant Israël, couronné David au milieu de toutes les difficultés, et donné à Salomon paix et gloire, tant qu'il la conserva. C'est l'intégrité qui a préservé Mardoché et son peuple, et défendu si remarquablement Daniel parmi les lions, et les enfants dans les flammes, qu'elle arracha au plus grand roi de la terre, et même à un païen, une confession des plus touchantes de la puissance et de la sagesse du Dieu qui les sauva et qu'il servait. Ainsi s'accomplit l'Écriture, l'intégrité des hommes droits les guidera, Prov 11, 3. Ô mes chers enfants, craignez, aimez et obéissez à ce grand Dieu, saint et immuable, et vous serez heureusement conduits et préservés durant votre pèlerinage astérisque jusqu'à la gloire éternelle. Astérisque, nous avons été créés, avons reçu la vie, et avons été placés sur la terre pour apprendre le bien et le mal, la justice et le péché, la vérité et le mensonge, l'amour et la convoitise, et pour nous mettre en quête de Dieu. Comme nous apprenons en attendant et en écoutant le Saint-Esprit, le mal du monde et de nous-mêmes, nous nous en détournons et sommes naturellement attirés vers Dieu. Plus nous apprenons, plus nous haïssons les institutions injustes du monde et plus nous nous en sentons étrangers. Nous voyons que nous sommes des pèlerins, errant à travers ce monde injuste, à la recherche d'une demeure juste d'amour, de vérité, de justice, d'intégrité et de droiture. Si nous ne parvenons pas à acquérir ici cette sagesse nécessaire pour trouver notre nouvelle demeure, nous devrons apprendre l'amour et la convoitise, le péché et la justice, le trouble et la paix, l'humilité et l'orgueil, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, l'âme et le doux dans la vie à venir, où cela est bien plus difficile et offre moins de récompenses. La gratitude, ou reconnaissance, est une autre vertu d'un grand éclat, ainsi estimée de Dieu et de tous les hommes de bien. C'est la reconnaissance des bienfaits reçus, pour l'honneur et le service de ceux qui les accordent. En vérité, c'est une noble sorte de justice et en un sens, elle pourrait être rapportée à la justice comme une de ses branches, avec cette différence toutefois. Puisque les bienfaits dépassent la justice, le lien est plus fort d'être reconnaissant que d'être juste, et par conséquent, il y a quelque chose de plus vil et de plus blâmable dans l'ingratitude que dans l'injustice. Ainsi bien que vous ne soyez pas obligé ni légalement tenu, par des jugements, à une restitution avec l'intérêt dû, votre vertu, votre honneur et votre humanité vous obligent à être reconnaissant. Et moins vous êtes liés extérieurement, plus on estime vos liens intérieurs comme plus forts. Ceux qui peuvent les rompre ne connaîtraient aucune borne, car il est vrai que, sans crainte de la loi, l'ingrat serait aussi injuste. Reconnaissez donc toujours les bienfaits que vous recevez, puis choisissez de quelle manière les bienfaits reçus peuvent le plus honorer ou servir ceux qui les ont conférés. Certains ont vécu jusqu'à avoir besoin du retour des faveurs qu'ils avaient faites. Ils ne devraient pas être contraints de demander ce qui aurait dû leur être offert spontanément. Peu importe s'ils n'ont rien à montrer, ils montrent assez lorsqu'ils exposent leurs besoins à ceux qu'ils ont obligés, et ces derniers voient assez pour éveiller leur gratitude lorsqu'ils voient leurs bienfaiteurs dans l'adversité. Moins il y a de loi, plus il y a de grâce et plus le lien est fort. C'est une vertu évangélique et elle agit comme la foi, uniquement par l'amour. En cela, elle ressemble exactement à l'état chrétien. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, et c'est par grâce, et non par mérite, que nous sommes sauvés. Mais nos obligations envers Dieu sont-elles moindres parce qu'il entasse si imméritement ses faveurs sur nous? Certes non. Il en va de même ici. Ce que nous recevons n'est pas dû ni contraint, mais donné librement. Ainsi il n'y a de lien que le choix, une bonté volontaire sans marché ni condition, mais n'en résulte-t-il aucune sûreté. si certainement, la plus grande, un jugement écrit est reconnu dans l'esprit, il est lié à l'autel avec une bonne conscience, mais jusqu'à quand, aussi longtemps qu'il vit? Les marques de la gratitude comme celles de l'amitié ne sont effacées que par la mort, autrement elles sont indélébiles. Un ami aime en tout temps, dit Salomon, Prov 17:17. Et ton ami et l'ami de ton père ne l'abandonne pas, Prov 27:10. C'est l'injustice qui fait de la gratitude un précepte. Il y a trois sortes d'hommes qui peuvent difficilement être reconnaissants. L'homme craintif, car dans le danger il perd son cœur, avec lequel il devrait aider son ami. L'homme orgueilleux, car il tient la vertu pour un objet de mépris. Et celui qui se souvient à contre-cœur qu'il doit quelque chose à Dieu se souviendra aussi difficilement qu'il doit de la gratitude à l'homme. L'histoire reproche à certains grands hommes de cette sorte que, mal à l'aise de voir les auteurs de leur grandeur, ils n'ont pas eu de repos jusqu'à avoir accompli la ruine de ceux qui les avaient élevés. Enfin, l'homme cupide s'y prend aussi mal que les deux autres, son or a gâté sa mémoire, et ne le laisse pas oser être reconnaissant, bien qu'ils doivent peut-être la meilleure part, au moins l'origine, à la faveur d'un autre. Comme il n'y a rien de plus indigne chez un homme, rien non plus n'est si souvent reproché dans l'Écriture. Combien souvent Dieu rappelle-t-il aux Juifs leur oubli et leur ingratitude pour les miséricordes et la faveur qu'ils ont reçue de lui? Lisez de 32:15. Jeshurun est devenu gras et a regimbé contre Dieu, est devenu insouciant à oublier et abandonner son rocher qui avait fait pour lui de grandes choses. Ainsi Moïse de 31:16-17, aussi Juges 10:11-13, et 1 Samuel 8:8. David pareillement, dans ses psaumes 78, psaume 105, psaume 106, donne l'histoire de l'amour de Dieu pour Israël et de leur ingratitude. Ainsi Ésaïe 17:1-11. Pareillement Jère 2, 31-32, Jère 5-7-20, Jère 15-6, Jère 16-10-12, 20-21, Jère 18-15, Osée 8-9. C'est une marque d'apostasie du christianisme selon l'apôtre de Tim 3-2. La diligence est une autre vertu utile et louable parmi les hommes. C'est une application discrète et intelligente de soi aux affaires, et elle évite les extrêmes, tant de l'oisiveté que du labeur servile. Elle donne de grands avantages aux hommes. Elle ne perd pas de temps, elle surmonte les difficultés, répare les déceptions, expédie les choses, supplée au manque de talent, et elle est pour eux ce qu'un étang est pour une source, quoique n'ayant pas d'eau par elle-même, elle conserve ce qu'elle reçoit, et n'est jamais à sec. Si l'un a les talons, l'autre a le vent, et souvent remporte le prix. Elle ne concerne pas seulement les affaires et les choses du corps, l'esprit aussi est engagé, et il devient sale, rouillé et altéré sans elle. Elle vous appartient dans tout votre être, ne soyez pas plus flâneur dans vos esprits que dans vos corps. Et si vous voulez tirer tout le bénéfice de cette vertu, ne l'entravez pas par un esprit confus. Fuyez les distractions, ne pensez qu'à l'affaire présente jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Soyez occupés à bon escient, car un homme occupé et un homme d'affaires sont deux choses différentes. Disposez bien votre matière, et la diligence y réussit, autrement les peines sont perdues. Que certains se donnent de la peine pour rien, considérez bien votre fin, ajustez-y vos ressources, puis employez-les avec diligence, et vous parvenez où vous désirez aller, avec la bénédiction de Dieu. Salomon loue très hautement la diligence. Premièrement, c'est la voie de la richesse, la main diligente enrichit, Prov 10:4. L'âme du diligent sera rassasiée, Prov 13:4. Il y a une promesse pour elle, et une d'une autre sorte pour le paresseux, Prov 23:21. Deuxièmement, elle élève les hommes, Prov 23:29. Voici un homme diligent dans son ouvrage, il se tiendra devant les rois. Troisièmement, elle conserve un bien, connais bien l'état de tes troupeaux, applique ton cœur à tes bêtes, car les richesses ne sont pas pour toujours, Prov 27:23-24. On ne vit pas du principal d'un patrimoine, il faut être diligent pour conserver ce que l'on a, que ce soit acquisition ou héritage, autrement cela sera consumé. Vous devez faire produire votre bien afin d'en tirer de quoi vivre. Bref, le sage conseille, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Éclée 9:10. De même que la diligence change notre état matériel, l'état spirituel ne peut s'obtenir ni se conserver sans elle. Moïse l'enjoint avec instance aux Israélites 2:4-9 et 2:6-7. L'apôtre Paul la recommande chez les Corinthiens et cite Tite à leur sujet pour cette raison, 2 Cor 8:7-22. Il en fait de même pour Timothée auprès des Philippiens, sur le même fondement, et les exhorte à travailler à leur salut, Philippiens 2:12-21. Pierre aussi exhorte les églises dans ce but. C'est pourquoi, frères, dit-il, appliquez-vous avec diligence à rendre certaine votre vocation et votre élection, car si vous faites ces choses, vous ne tomberez jamais, 2 Pierre 1:10. Et en 2 Pierre 3:14. C'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous attendez de telles choses, la fin du monde et le dernier jugement, ayez soin d'être trouvés par lui en paix, sans tache et irréprochables. Ainsi la diligence est une vertu approuvée, mais souvenez-vous qu'elle consiste en une poursuite ou exécution raisonnable de fin honnête, et non en une surcharge ni en une poursuite oppressive, pour l'esprit ou pour le corps, des entreprises les plus licites. N'en abusez donc pas au service de l'ambition ou de l'avarice. Que la nécessité, la charité et la convenance la gouvernent, et elle sera bien employée, et vous pouvez attendre des retours prospères. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence, Hébreux 11. Si la frugalité est aussi une vertu, et d'une utilité non négligeable dans la vie, c'est une meilleure manière de devenir riche, car elle comporte moins de peine et de tentation. Il est proverbial, « Un sou épargné est un sou gagné ". Cela a une morale significative, car cette façon d'obtenir est plus en votre pouvoir, et moins sujette au hasard, ainsi qu'au piège, à l'abri de l'envie, sans procès, et prévient les calamités. Car beaucoup acquièrent, qui ne peuvent conserver, et faute de frugalité, dépensent ce qu'ils gagnent, et viennent ainsi à manquer de ce qu'ils ont dépensé. Mais gardez-vous de l'extrême, ne manquez pas dans l'abondance, car c'est de l'avarice jusqu'à la cupidité. Il vous convient d'épargner pour les enfants, la vieillesse et les accidents, mais ne prétextez jamais ces choses pour couvrir et satisfaire la convoitise. De même que je vous veux libéral, mais non témérairement prodigue et diligent, mais non excessif dans le travail, ainsi je vous veux frugal, mais non cupide. Si vous le pouvez, mettez de côté la moitié de votre revenu pour les imprévus, où la charité est au moins la seconde considération, mais pas celle de Judas car c'était au mauvais endroit. Astérisque commentaire de l'éditeur du site, aujourd'hui, on attribue à Benjamin Franklin l'invention de ce proverbe, pourtant il n'était même pas né à l'époque de cet écrit. La tempérance, ou la maîtrise de soi, je vous la recommande très instamment tout au long de votre vie. Elle est comptée parmi les fruits de l'esprit, Galates 5:23, et c'est une grande vertu nécessaire. À parler proprement et strictement, elle se rapporte au régime alimentaire, mais en général, on peut la considérer comme ayant trait à toutes les affections et pratiques des hommes. Je commencerai donc par elle en ce qui concerne la nourriture, dans le sens où on l'entend ordinairement. Manger pour vivre et non vivre pour manger, car c'est au-dessous d'une bête. Évitez les curiosités, nouvelles sensations gustatives et les excitations, que votre principale sauce soit un bon estomac, que la tempérance vous aidera à obtenir. Vous ne pouvez être trop simple dans votre nourriture, pourvu que vous demeuriez propre, ni trop économe, pourvu que vous ayez assez pour la nature. Car ce qui maintient le corps dans la sobriété rend l'esprit clair, comme le silence le rend fort. Elle favorise une bonne digestion, celle-ci un bon repos, et celui-ci une constitution solide. Bien moins encore donner des festins à quiconque, sauf aux pauvres, comme Christ l'a enseigné Luc 14, 12, 13. Car les divertissements sont rarement sans péché, mais recevez volontiers les étrangers. Comme dans le régime, ainsi dans l'habillement, observez et maintenez une sobriété exemplaire dans la manière de vous vêtir. Choisissez vos vêtements pour leur utilité, non pour la mode, pour couvrir, et non pour la parure, ni pour complaire à un esprit vain, en vous-même ou chez les autres. Ceux qui croient que les vêtements peuvent donner de la beauté à l'homme sont des âmes déchues. Cette vie n'est-elle pas plus que le vêtement ? Matthieu 6, 25. L'homme ne peut changer l'œuvre de Dieu, car l'homme ne peut donner ni la vie ni les membres du corps. Quand les hommes rabaissent l'ouvrage de Dieu, j'allais dire son image, au regard de l'invention d'un tailleur en matière de vêtements, ils montrent peu d'estime pour la sagesse et la puissance de leur Créateur, grossière folie et profanation. Mais vous, mes chers enfants, rappelez-vous qui était autrefois ce dont Jésus dit qu'il se mettait tant en souci de ce qu'il mangerait, boirait et mettrait. N'était-ce pas des gentils, des païens, un peuple sans Dieu dans le monde? Lisez Matthieu 6, et quand vous l'aurez fait, parcourez ces excellents passages des apôtres Paul et Pierre, 1 Tim 2, 9, 10 et 1 Pierre 3, 3, 5. Vous y trouverez l'exhortation adressée aux femmes seulement, une préoccupation efféminée, et par conséquent une honte pour les hommes d'employer sur eux-mêmes de tels artifices et dépenses d'habillements élégants et coûteux. Suivez l'exemple de ces chrétiens primitifs, plutôt que celui de gentils sensuels, qui pervertissaient l'ordre naturel des choses, car ils mettaient la convoitise au-dessus de la nature et les moyens au-dessus de la faim, et préférait la vanité à la commodité, un excès sans retenue, qui n'a aucun sens des miséricordes de Dieu, et ne peut donc en faire un bon usage, encore moins en rendre les retours qu'elle mérite. Bref, ces intempérances sont de grands ennemis de la santé et de la postérité, car elles rendent le corps malade, dépouillent les enfants, déçoivent la charité et donnent un mauvais exemple, des mots très séduisants, autant que pernicieux. Et elles ne s'arrêtent pas là. Elles sont suivies d'autres vices, ce qui a conduit l'apôtre à les réunir dans son épître aux Galates 5, 20-21. Les mauvais fruits de cette part de l'absence de maîtrise de soi sont si nombreux et si grands que, après une réflexion sérieuse, je crois qu'il n'y a presque pas de pays, de ville ou de famille qui ne souffre de ce mal. Je vous recommande de lire la première partie de No Cross, No Crown et de L'adresse aux protestants, où je suis plus particulier dans ma censure de ce travers, ainsi que les autorités que j'apporte en faveur de la modération. Mais la vertu de tempérance ne concerne pas seulement le manger, le boire et l'habillement, mais encore l'ameublement, la suite, la dépense, le gain, l'avarice, les affaires, les divertissements, la compagnie, la parole, le sommeil, l'éveil, et toute passion de l'esprit, l'amour, la colère, le plaisir, la joie, la tristesse, le ressentiment, tout cela y a part. Limitez donc vos désirs, apprenez à vos volontés la soumission, prenant Christ pour exemple autant que pour guide. C'est lui qui a mené et enseigné une vie de foi en la Providence, et qui a dit à ses disciples le danger des soucis et des plaisirs de ce monde, ils étouffent la semence du royaume, suffoquent et éteignent la vertu dans l'âme, et rendent l'homme stérile en bon fruit. Son sermon sur la montagne est une autorité divine continue en faveur d'une tempérance universelle. L'apôtre, bien conscient de la nécessité de cette vertu, donna aux Corinthiens un avertissement opportun. « Ne savez-vous pas que dans une course tous courent, mais un seul reçoit le prix, courez de manière à l'obtenir. Et tout homme qui combat pour la maîtrise ou cherche la victoire est tempérant en toutes choses, il agit avec discernement et avec un juste jugement. L'or eut le fond pour obtenir une couronne corruptible, mais nous une incorruptible. Je cours donc, non pas à l'aventure, je combats, non pas comme frappant l'air. » Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. 1 Corinthiens 9, 25-27. Dans un autre chapitre, il presse la tempérance jusqu'à une quasi-indifférence. Or je dis ceci, frères, le temps est court, il reste donc que ceux qui ont des femmes soient comme s'ils n'en avaient pas, et ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, et ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, et ceux qui usent de ce monde comme n'en abusant pas. Tout cela n'est pas sans raison. Il en donne une très bonne, car la figure de ce monde passe, mais je veux que vous soyez sans inquiétude. 1 Corinthiens 7, 29-32. C'est pour cette cause qu'il l'a si fortement recommandé à Tite, afin d'avertir les anciens de ce temps d'être sobre, grave, tempéré, Tite 2, 2, non empressé, violent, obstiné, tenace, ni déréglé en aucune sorte. Il en fait un devoir indispensable pour les pasteurs des églises, qu'ils ne soient pas arrogants, prompts à la colère, adonnés au vin ou à un gain honteux, mes amis de l'hospitalité, des gens de bien, sobres, justes, saints, tempérés, Tite 1, 7-8. Et pourquoi? Parce que contre ces excellentes vertus il n'y a pas de loi. Galates 5, 22-23, je conclurai ce sujet l'ayant abordé en plusieurs endroits de ses conseils par ce passage très compréhensif de l'apôtre, Phil 4-5, que votre modération soit connue de tous les hommes car le Seigneur est proche, comme s'il avait dit, prenez garde, veillez sur vos voies. Prenez garde à ce que vous faites, car le Seigneur est près de vous, à la porte même, il vous voit, il observe nos pas contre vos errances et il vous jugera. Que cette excellente phrase, si directe et si proche, vive dans vos esprits, qu'elle demeure toujours sur vos âmes, mes enfants bien-aimés, et qu'elle influence toutes vos actions, oui, vos affections et vos pensées. C'est une noble mesure, suffisante pour régler l'ensemble, ceux qui la possèdent sont à l'aise autant qu'en sûreté. Aucun extrême ne prévaut, le monde est tenu à distance, et cela en pouvoir sur leur propre esprit, ce qui leur donne la jouissance la plus vraie d'eux-mêmes et de ce qu'ils ont, une domination plus grande que celle des empires. Ô puisse cette vertu être la vôtre, vous avez la grâce de Dieu pour cette fin, et elle suffit, employez-la, et vous ne pourrez manquer la tempérance, ni dans la maîtrise de soi, le vrai bonheur dans toute votre conduite. J'ai choisi de parler le langage de l'Écriture, qui est celui du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et de sagesse, qui n'avait besoin d'aucun art ni direction de l'homme pour parler et s'exprimer convenablement à l'intelligence de l'homme. Mais pourtant ce principe béni, la parole éternelle par laquelle je vous ai commencé, et qui est cette lumière, esprit, grâce et vérité, que je vous ai exhorté à suivre dans toutes ces saintes apparitions ou manifestations en vous-même, par laquelle toutes choses furent d'abord faites et l'homme éclairé pour le salut, est la grande lumière et le sel des siècles de Pythago, l'esprit divin d'Anaxagore, le bon esprit de Socrate, le principe non engendré de Timée, et l'auteur de toute lumière, le Dieu dans l'homme de Hieron, le principe éternel. Lesquels, de même qu'il désignait ainsi la parole éternelle, ne manquaient pas pour son apparition dans l'homme, de termes très significatifs, un dieu domestique ou dieu intérieur, dit Hieron, Pythago, Épictète et Sénèque, génie, ange ou guide, dit Socrate et Timée, la lumière et l'esprit de Dieu, dit Platon, le principe divin dans l'homme, dit Plotin, la puissance divine et la raison, la loi immortelle infaillible dans l'esprit des hommes, dit Philon, et la loi et règle vivante de l'esprit, le guide intérieur de l'âme, et le fond. Sur quoi vous pouvez lire davantage dans la première partie de Christian Quake et dans la Confutation of Atheism du D.R. Cudworth. Ce sont là quelques-uns de ces gentils vertueux que l'apôtre loue, Rome 2:13-15, qui, bien qu'ils n'eussent pas reçu la loi comme les Juifs, avec ses aides instrumentales et ses avantages, toutefois, faisant par nature les choses contenues dans la loi, devinrent une loi à eux-mêmes. William Penn, le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.